fois, mais je dis encore parce que il y a du verglas sur la route, on roule lentement. Hein. Alors je pense qu'au paradis, il n'y aura plus tout ça. J'espère. Enfin, il y en a qui aiment, hein, donc je pense que voilà, il y aura plusieurs demeures dans la maison de mon père. Hein. Il y aura aussi des endroits où j'irai jamais. Alors, ce matin, on va lire Hébreux 4, versets 11 à 13, s'il vous plaît. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Alors, on pourrait lire bien avant, n'est-ce pas? Vous connaissez, je pense, l'histoire de ce dont il est question là. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Je vous asseoir, mes frères et sœurs. Continuez en disant, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Nous devons tenir fermement sur ce que le Seigneur nous a enseigné. Et aussi, craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Parce que la bonne nouvelle nous a été aussi bien annoncée qu'à eux, c'est-à-dire qu'aux Juifs, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Vous voyez, c'est toujours une question de « je vous donne, mais vous prenez pas ».« Je vous donne, vous prenez pas ». Et là, l'apôtre nous dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Voilà pourquoi... Ici, nous avons mis une épée. C'est une épée que Laurent Bourg m'a offert pour mes 50 ans au restaurant Maxime, je me souviens toujours. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et Dieu, dans son amour, nous a confié à nous, les êtres humains, une épée. La parole, le don, le pouvoir de parler. Et puis, ensuite, il a permis que des hommes et des femmes inspirés écrivent ce qu'il a dit et il nous l'a confié. C'est-à-dire que nous pouvons prendre cette parole-là et la manier comme une épée aussi. Mais il y a des règles. Je sais que Branham n'est pas tellement pour les écoles bibliques et tout ça. Bon, lui, c'était compréhensible. Il avait un tel don. Voilà. Il suffisait qu'il manifeste le don. Et c'était des réunions parfaites. Mais, misère, il y a quand même besoin d'avoir un minimum de connaissances bibliques pour pouvoir manier cette épée sans se blesser soi-même et sans blesser les autres aussi. Certaines personnes douées de la parole, nous sommes tous doués de la parole, enfin, il y en a qui sont muets, mais vous en avez qui sont doués de la parole et qui ne disent rien non plus, qui sont muets aussi, ou qui disent des banalités, ou qui ne parlent que de choses qui ne fâchent pas. Bon, voilà, ça. Dieu ne fait jamais ça. Dieu ne fait jamais ça. Certaines autres personnes utilisent le don de la parole pour convaincre les gens. Ce sont des pasteurs, des avocats, ce sont des politiciens, ce sont des vendeurs. Ils veulent convaincre. Dieu utilise aussi sa parole, son épée, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pour avertir, pour exhorter, pour menacer aussi de temps en temps. D'autres personnes douées de parole racontent des histoires pour faire rigoler. C'est vrai, on peut faire rigoler avec la parole. Vous savez pourquoi les animaux rigolent pas? C'est parce qu'ils n'ont pas la parole. Et nous, on peut parler, on peut faire rire, on peut faire pleurer, on peut faire rêver avec la parole. Tous ces gens qui font ça avec excellence sont des poètes, sont des conteurs, des écrivains, des chanteurs. D'autres utilisent le don de la parole pour triquiter, critiquer, pour calomnier, pour salir, pour tuer, pour tromper. Et là, Dieu, il fait ça de temps en temps. Alors, il ne peut pas me dire que non. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec Pharaon. Il l'a endurci de façon à ce que, voilà. Et d'un côté, il a envoyé Moïse pour lui dire, Pharaon, fais sortir mon peuple. Et puis de l'autre côté, Dieu, il endurcissait le cœur de Pharaon. Il avait un but. Rappelez-vous aussi l'histoire de 2 Chroniques 18-20. Vous irez lire, c'est très édifiant. Il y a des choses comme ça qui sont étranges. Dieu utilise donc son épée comme il veut. D'autres utilisent le don de la parole pour édifier, pour construire, pour conseiller. Et la plupart des gens utilisent l'épée de la parole pour le bien et aussi pour le mal. Parce que cette parole, elle peut édifier, mais elle peut aussi tuer. Elle peut tuer. Alors ça nous semble étrange, mais ça ne l'est pas. Parce que derrière tout ça, derrière tous ces mots, il y a des esprits. Dans l'histoire de Chronique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Dieu qui est très embêté avec une bande de rois, puis qui dit, mais comment on va faire? Qui enverrai-je pour aller raconter des mensonges? Et puis, il y en a qui ont dit, ben moi, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis il y en a un qui dit, attends, moi je vais y aller. Dieu dit, vas-y, c'est une bonne idée. Alors, vous n'avez jamais lu ça? Une histoire terrible. Puis il y en a un, il y a un des rois qui s'est méfié, il a dit finalement ils sont bien tombés dans le piège. Dieu fait des choses étranges. Et même en utilisant la parole de Dieu, on peut faire des choses étranges. Ça peut sembler étrange, mais ça ne l'est pas, parce que derrière, il y a des esprits. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné le discernement des esprits. Pas le jugement des esprits, mais le discernement des esprits. Et c'est très précieux. C'est très précieux. Les religieux même tiennent cette épée et ignorent très souvent que ce n'est pas que leur propre main qui tient l'épée. Il y a toujours un ange et un démon qui se disputent la main qui tient l'épée ou qui veut la tenir. Savez-vous ce que le démon dit à celui qui tient l'épée? Il lui dit, tu vas faiblir. Tu ne vas pas savoir quel est le bon moment pour frapper. Et tu as peur. Savez-vous ce que l'ange dit? Il dit, tu vas faiblir. Tu ne sais pas, tu ne vas pas savoir quel est le bon moment pour frapper. Et tu as peur. Et alors le serviteur de Dieu, il est surpris. Parce que les deux disent la même chose. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Alors l'homme de Dieu écoute. Il écoute l'enseignement des anciens, de ceux qui savent parce qu'ils ont déjà fait des expériences heureuses et malheureuses. Et puis il écoute en lui-même et il entend finalement le démon qui lui dit « Allez, laisse-moi t'aider. » Il attend encore un peu et puis il entend l'ange qui lui dit « Je t'aide. » Et là, il discerne. Et là, il discerne. Parce que le diable n'a pas le droit de diriger la main d'un serviteur de Dieu, à moins que le serviteur de Dieu ne lui donne l'autorisation. C'est pourquoi il dit, laisse-moi t'aider. Mais l'ange, il n'a pas à demander la permission. Il a été envoyé par Dieu pour aider le serviteur de Dieu. Alors il se dit, c'est vrai que je vais faiblir. C'est vrai que je ne vais pas savoir forcément quand c'est qu'il faut frapper. Et c'est vrai que j'ai peur. Mais l'ange m'aide. Alors il comprend la différence. Les mots sont les mêmes, mais les alliés sont différents, sont dissemblables. Alors le fidèle serviteur de Dieu qui est exercé aux armes choisit l'ange. C'est normal. Il sait qui choisir. Il sait qui Dieu lui a envoyé. Parce que des fois, Dieu envoie des démons. Lisez 2 Chroniques, vous allez voir. Qui enverrai-je? Moi, je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Bon, vas-y. Lisez ces choses. Le discernement des esprits. Et si vous n'avez pas le discernement des esprits, demandez-le. Mais faites attention, c'est très lourd à porter. Demandez plutôt à quelqu'un qui l'a de vous dire, de vous parler. Demandez plutôt à ceux qui ont de l'expérience. Parce que le don de discernement des esprits, c'est dur à porter. L'homme de Dieu parle, et il dit toutes sortes de choses. Il dit « passe-moi le seul », il dit toutes sortes de choses. Et sa parole, c'est la plupart du temps que des paroles d'homme. Par contre, quand il sort l'épée du fourreau, il s'en sert au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est différent. Et c'est là aussi qu'il faut faire la différence. Quand on écoute un serviteur de Dieu qui dit « passe-moi le sel » ou qui dit une bêtise ou qui se met en colère ou l'homme de Dieu le même quand il manipule l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Il n'y a aucun homme qui est parfait. Et l'homme de Dieu avec l'épée de l'esprit peut ouvrir un chemin, il peut aider quelqu'un, il peut éloigner du danger, il peut faire beaucoup de choses. Le soldat du Seigneur, il sait qu'il n'y a que trois attitudes une fois qu'il a l'épée en main. Il a droit à trois attitudes. La première, il peut attaquer. La deuxième, il peut se défendre. Et la troisième, il peut fuir. Les trois sont permis. Les trois attitudes font partie du combat. Des fois, il faut savoir fuir. Des fois, il faut savoir se retirer. Des fois, il faut dire, non, maintenant, là, non. Ce qui ne fait pas partie du combat, c'est de parler des paroles d'hommes en utilisant la parole de Dieu. L'homme de foi, il sait que l'épée qu'il manie, elle a une force en elle-même qui se passe très bien des mots humains. Très bien. Et c'est là qu'on peut tous dire, « Ô Seigneur, je te loue, Père du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux petits, aux petits. » Je vous parlais des poètes tout à l'heure. Au temps de l'empereur Tibère, à Rome, il y avait un homme très bien, un homme juste, un homme bon, pas chrétien, mais un homme bon, gentil. Et il avait deux fils. Le premier, il s'est enrôlé dans l'armée, et puis il a voyagé dans toutes les contrées, au fin fond de l'Empire romain, il a voyagé beaucoup. Et l'autre, eh ben, c'était un poète. Alors il écrivait des poésies, et puis il chantait, un peu comme le barde, vous savez. Et puis il écrivait des pièces de théâtre, et c'était très apprécié des foules. Ils se déplaçaient pour venir écouter ses poèmes, et assister à ses pièces de théâtre, et quand il chantait avec sa harpe, clon, clon, clon. Tout le monde l'aimait. C'est une star. Une nuit, le père de ces deux enfants-là, c'est le grand gaillard, une nuit, le père a fait un songe. Son ange lui est apparu pour lui dire que les paroles de l'un de ses fils seraient connues et répété dans le monde entier jusqu'à la fin des temps. Le père, ça l'a tellement émerveillé qu'il s'est réveillé en pleurant de joie. Ah, c'est formidable, c'est formidable. La vie se montrait généreuse avec lui. Et il venait d'avoir une révélation qui remplirait de fierté n'importe quel papa. D'abord, il a réveillé la maman pour lui dire, « Hé, la maman, voilà ce qui s'est passé. » Et la maman, elle était toute contente. « Oh, mon fils !» Et peu de temps après, le papa mourut, bêtement. Il y a un enfant qui traversait la route, et puis il a eu une jambe écrasée sous un chariot, puis le père a voulu soulever le chariot, puis ça lui a fait péter l'aorte, puis il est mort. Il a fait un effort de trop. À l'époque, on ne savait pas que c'était l'aorte, c'est maintenant qu'on le sait. Et alors, il quitte son corps. Et en quittant son corps, la première personne qu'il voit, c'est l'ange. L'ange qu'il avait vu dans son songe. Et cet ange l'attendait. Et l'ange lui dit, « Ah, t'as été un homme bon. Alors, je peux réaliser aujourd'hui n'importe lequel de tes souhaits. Qu'est-ce que tu voudrais ?» Alors le vieil homme, il dit, la vie a été bonne pour moi, c'est vrai. Quand tu m'es apparu en songe, j'ai su que tous les efforts que j'avais faits, voilà, se trouvent justifiés. C'est magnifique, c'est extraordinaire, parce que les vers de mon fils vont rester dans la mémoire des hommes tout au long des siècles à venir. Et je demande rien pour moi, rien, rien, juste, je voudrais constater la renommée de celui que j'ai élevé dans les choses de l'art et de la lecture. Je voudrais que tu me montres la renommée qu'il va avoir dans les siècles futurs. J'aimerais voir dans un futur lointain les paroles de mon fils. Alors l'ange s'approche de lui et il le touche. Et au moment où il le touche, ils sont transportés dans un lointain futur, en 2011. Enfin, un sacré bout de temps, ça. Et puis, il se trouve sur une estrade. Il y a un blanc qui est là. Puis il y a une foule de noirs. Mais une foule de noirs. Et le vieil homme pleure de joie. Il dit, ah, je savais que les vers de mon fils étaient beaux. Je savais qu'ils seraient immortels. Je savais que les gens continueraient à venir les écouter en foule. Je suis content. Est-ce que tu voudrais me dire quel est le poème que ce blanc est en train de leur lire? Et l'ange s'est approché du vieil homme et très gentiment il lui a dit, les vers de ton fils, le poète, ont été populaires à Rome, tout le monde les aimait, tout le monde y prenait plaisir, mais quand le règne de Tibère s'est achevé, le peuple a oublié les vers de ton fils. Les paroles que cette foule d'Africains écoute, ce sont celles de ton autre fils, le soldat. Alors là, le vieux était tout étonné. Ah bon, ces grosses brutes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'ange lui dit, mais ton fils est allé servir dans des tas d'endroits dans l'Empire, et dans une province éloignée. Il est finalement devenu un centurion et il était comme toi, juste, sévère, mais bon. Et puis un soir, un de ses serviteurs est tombé malade. Et puis ça s'est aggravé et le serviteur était mourant. Or, ton fils avait entendu parler d'un jeune rabbi qui guérissait les malades. Alors il est sorti de chez lui, il a cherché, il a demandé où est-ce qu'il est. Il a fait quelques kilomètres, il l'a rencontré. Et quand il l'a vu, il a écouté quelques paroles, il était émerveillé. Et il s'est converti. Il s'est donné tout de suite, il s'est converti. Et puis il s'est approché et puis il a raconté à ce rabbi que son serviteur était mourant. Et le rabbi s'est déclaré prêt à l'accompagner jusque chez lui. Mais ton fils, en le regardant droit dans les yeux, lui a dit quelque chose. Et ça, ce qu'il lui a dit, ben, ce sont les paroles que le blanc, là, Michel Janton, enseigne à cette foule de noirs. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera sauvé. » Mon frère, ma sœur, quoi que tu fasses, tu joues avec l'épée. Et ton rôle est important. Fais que ça soit le rôle principal. Mais en fait, tu n'en sauras jamais rien si c'est le rôle principal ou pas. La parole épée de ce centurion, elle est connue du monde entier. C'était une parole d'homme. Mais c'est une parole d'homme bien maniée. Alors elle est devenue une parole écrite dans la parole de Dieu. Est-ce que les paroles que tu prononces au nom du Seigneur seront reconnues véritablement au jour du jugement comme des paroles de Dieu? Écoute bien cette prophétie que je donne maintenant. Fais bien attention à l'endroit où tomberont tes larmes de gratitude et d'humilité, parce que ce sera là que se trouvera ton trésor. Il faut donc accorder de la valeur à ce qui en mérite. Soyez toujours vigilants. Ne demandez pas aux autres la permission de brandir votre épée, mais soyez bien sûr de la brandir à bon escient et de façon correcte et selon les règles. Ne perdez pas de temps à expliquer tous vos gestes. Ça ne vaut pas la peine. Regardez à côté de vous et reconnaissez ceux qui vous aiment. Regardez derrière vous et reconnaissez vos adversaires. Ne tentez pas de paraître, soyez, c'est tout. Ne croyez pas aux mensonges du diable, parce que lui aussi il a la parole. Il utilise aussi la parole de Dieu, mais il a des paroles, on sait. Et il va vous donner des preuves. Des preuves. Ah, ça, c'est vraiment de Dieu. Voilà la preuve. Il y a une légende juive. Vous savez que il y a beaucoup de légendes juives et l'histoire de la pomme, elle vient de cette légende juive. Je vous raconte, c'est une légende, c'est pas biblique, mais ça va vous faire réfléchir. Ève se promenait dans le jardin d'Éden et le diable s'est approché d'elle avec une pomme. C'est un petit peu comme la sorcière avec Blanche-Neige. Vous savez que Branham avait dit que c'était un film inspiré, ça, Blanche-Neige. Et le diable lui dit, mange cette pomme. Mais Ève refuse. Pourquoi? Parce que son mari lui avait dit que voilà, il fallait pas. Hein. Donc, non. Alors le diable lui dit, mais si tu manges cette pomme, tu seras la plus belle femme du monde. Alors Ève, elle éclate de rire, elle dit, mais je suis la seule femme au monde. Il ne peut pas y avoir une plus belle. Je suis la seule femme au monde. Il dit, c'est ton mari qui t'a dit qu'il ne fallait pas manger cette pomme. C'est ton mari aussi qui t'a dit que tu es la seule femme au monde. Allez, viens avec moi. Et il l'a emmenée sur une colline. Et sur cette colline, il y avait un puits. Et le diable dit à Ève, Adam a une autre femme. Et pour que tu ne la vois jamais, il la cache là-dedans. Regarde. Alors Ève s'est penchée, elle a regardé dans le puits et elle a vu l'image d'une belle femme. Elle a su que le diable ne mentait pas. Elle a pris la pomme, elle l'a bouffée. Oh, c'est qu'une légende, mais je prie qu'elle frappe votre esprit, que vous vous en souveniez. Faites attention, ce qui semble être des preuves. Ça peut être des ruses, afin que vous ne croyiez pas les preuves que le diable place sous votre nez. Prenez garde. Le maniement de la parole de Dieu, de l'épée du roi, ce n'est pas une affaire de bricolage. Soyez humbles, parce que l'humilité précède la gloire. Amen. Jésus, je te prie pour que ce message reste gravé dans tous les cœurs de ceux qui l'ont entendu. Et qui ont un cœur vrai. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Allez, on chante.